Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au premier titre de champion de France de rugby du Stade Toulousain, en 1912, le premier des 23 titres. En 1912, c'est le premier titre de champion de France pour Toulouse qui bat le 31 mars 1912 le Racing Club de France. La victoire est obtenue à l'arraché, 8-6, devant 15 000 personnes présentes au Pont Jumeau. Victoire obtenue grâce à deux essais d'Alfred Messonnier et Pierre Jorigui et un match rayonnant du demi de mêlée Philippe Struziano. C'est le début du règne de la Vierge Rouge, expression qui baptise le Stade Toulousain. Pourtant, avant 1912, Toulouse avait connu deux finales perdues. En 1903, le Stade français l'emporte face au Toulouse Sport Olympique étudiant, 16-8. L'homme clé du Stade français est Pierre-Gustave Goderman, troisième ligne centre international, as de l'aviation pendant la Grande Guerre, pilote automobile hors pair et qui a participé aux Jeux Olympiques à Naviron en 1912 et en voile en 1936. On attendait une finale de la Garonne. Elle viendra en 1909. Et le Stade Bordelais Université Club s'impose face au Stade Toulousain 17-0, 5 essais à rien. Alors, qu'en est-il de la finale de 1912? On s'appuiera pour cela sur l'ouvrage de Rémy Pêche, intitulé « 1912, premier d'une longue liste, le Brennus au stade, édition Midi-Pyrénéenne ». L'engouement général pour cette finale est tout à fait explicable. Deux des équipes les plus prestigieuses du pays s'affrontent pour la 19e finale du championnat de France. Le Racing Club de France et le Stade Toulousain, qui a le privilège de jouer sur son terrain devant son public. Le Racing domine depuis 20 ans le monde rugbystique avec le Stade français, son rival parisien, et le SBUC. Au sein des 19 premières équipes de France, qui à partir de 1906 ont disputé les matchs internationaux, l'équipe parisienne totalise 67 caps d'internationaux, soit 24% des sélectionnés, contre 72 au Stade français, 25%, et seulement 14 pour Toulouse, 5% des sélectionnés. Même à Toulouse, le pronostic est largement favorable aux bleus et blancs, autant dans la presse générale et satirique, comme la Dépêche, l'Express du Midi, le Midi Socialiste, le Cri de Toulouse, que dans la presse sportive alors en plein développement, comme le Midi Sportif, Autosport et le Journal des Sports. Ce 31 mars 1912 à 15h, un fort vent d'OTAN, chargé de quelques averses, balaye le terrain des Ponts Jumeaux. Inauguré en 1906 pour remplacer la Prairie des Filtres, qui avait accueilli dès 1894 les premières rencontres de football-rugby, il reçoit ce jour-là 15 000 spectateurs, dont la plupart ont acquitté les 2 francs réclamés à l'entrée du stade pour les populaires, soit le salaire ouvrier pour une demi-journée de travail. Les places de tribune sont vendues 5 francs. La recette de plus de 25 000 francs or restera longtemps un record. Des trains spéciaux ont été affrétés pour amener à Toulouse les nombreux férus de rugby de tout le Midi. L'équipe de Toulouse se présente de la manière suivante. À l'arrière du tour, trois quarts, Jorigui, Moura, Mouline, Defosière, demi de mêlée, Struziano, demi d'ouverture, Messonnier. Troisième ligne, Capmo, Folk, Serva. Deuxième ligne, Monique, le capitaine, et Mariette. Première ligne, Berger, Pascarel, Tavernier. La première mi-temps, déjà très disputée, est favorable aux Parisiens. Ceux-ci, forts d'un pack d'avant lourd et efficace, pratiquent une stratégie systématique et sans risque. Envoyer le ballon, au besoin en tapant à suivre, aux ailiers internationaux, Faillot, surnommé l'autobus, et Géo André, alias le Bison, recordman de France du 100 mètres, qui réalise de longues courses en bord de touche. Géo André inscrit à la 21e minute et à la 35e minute 2 essais non transformés. Les avants du stade résistent bien et fournissent de nombreux ballons. À deux reprises, bien alimentés par une paire de demi rêvés associant l'international chevronné Alfred Messonnier et l'opiniâtre et astucieux Struc, ils ont, par les trois quarts, Mourat, Moulin, Defosière, porté des attaques enrayées de justesse. Le score à la mi-temps, injuste à l'égard des Toulousains, est de 0 à 6 en leur défaveur. En seconde mi-temps, et malgré les blessures de Mariette et Servat, qui restent stoïquement dans le jeu, le pack toulousain prend l'ascendant et occupe le terrain adverse. À la 52e minute, un essai du demi-ouverture Messonnier, sur sortie de mêlée et moyennant une superbe feinte de passe, déchaîne l'enthousiasme du public. L'arrière international du Tour transforme, le score est de 6 à 5 pour le Racing, la pression des Diables Rouges s'accentue. Un essai est refusé aux Toulousains, puis trop personnel, le jeune centre Mourat, bien décalé, néglige d'alerter son ailier et laisse échapper une belle occasion. À la 62e minute, le grand deuxième ligne et capitaine Munich capte la balle sur une touche ardemment disputée et serre directement l'ailier Pierre Jauregui. Celui-ci, après plusieurs feintes et crochets qui suscitent le délire des tribunes, inverse le score par un essai entre les poteaux. Mais déception, Dutoux rate cette fois la transformation et le score étriqué, 8 à 6 en faveur de Toulouse, ne met pas le stade à l'abri d'un retour de flamme parisien. La foule manifeste son inquiétude. Cependant, le match se termine dans le camp parisien sur plusieurs attaques toulousaines auxquelles les avants participent par des dribbles ou balles en main. Toulouse triomphe 8 à 6 et chacun s'accorde à reconnaître la juste sanction d'une supériorité longue à s'affirmer en raison de l'arbitrage tatillon du bordelais Giacardi qui avait infligé 36 pénalités au stade. Malgré une actualité fertile, un événement souvent tragique, comme le naufrage du Titanic le 14 avril, la guerre italo-turque ou les exploits criminels de la bande à Bono, malgré la proximité d'élections municipales ardemment disputées, la ferveur de l'opinion autour des champions ne cesse pas. Le 20 avril se déroule au Capitole une cérémonie qui sera renouvelée à chaque Brennus, la réception des champions dans la salle des illustres. Le premier adjoint, Paul Feugat, déclame un discours fleuri. Il prend, au nom de la ville, sa part du triomphe et en profite pour célébrer la revanche d'une province meurtrie par l'histoire et délaissée par le Paris centralisateur. La composition sociale de l'équipe victorieuse révèle, pour 14 joueurs sur 15, une appartenance indiscutable à la bourgeoisie ou aux classes moyennes, mais la présence d'une foule passionnée annonce déjà une démocratisation de la pratique. En effet, la passion engendrée par le spectacle régulièrement renouvelé et produit par l'équipe adulée ne peut déboucher que sur le désir de pratiquer. Cette phalange de jeunes hommes, un peu moins de 24 ans en moyenne, comporte 7 élèves vétérinaires, 4 étudiants inscrits dans diverses facultés, dont 3 ouvrent sur le secteur santé, et 3 employés ou cadres commerciaux ou industriels. Ils relèvent donc tous de catégories sociales aisées, même si vétérinaires, médecins, dentistes et pharmaciens comme employés sont en contact quotidien avec des éléments plus populaires, bouchers, maquignons et paysans pour les premiers, clientèle variée pour les commerciaux, et donc à même de propager le virus du rugby dans des couches plus profondes de la société. Le docteur Paul Voivenel, joueur, dirigeant fédéral, journaliste sportif et chantre de l'Ovalie durant plus d'un demi-siècle, situe dans son livre « Mon beau rugby » les balbutiements du rugby toulousain au lycée, aujourd'hui lycée Pierre de Fermat, au début des années 1890. La décennie 1917-1927 sera marquée par le règne de la Vierge Rouge. Philippe Struciano, demi de mêlée et capitaine, puis président de 1951 à 1954, est le leader de ses équipes jusqu'en 1923, saison où il quitte le club sans conséquence sur les résultats puisque les titres s'enchaînent. Philippe Struciano, dit Struc ou l'intraitable, est né le 11 mars 1891 à Toulouse. Le stratège buteur qui possédait une passe sèche de 20 mètres fut champion de France à 9 ans d'intervalle. Après Toulouse, il finit sa carrière comme entraîneur-joueur à l'Avignon Rugby Club. Il se définissait comme le chien de garde du troupeau des avants. Il compte 7 sélections en équipe nationale de 1913 à 1920. Il est décédé en 1956 à l'âge de 65 ans. Alfred Meissonnier est né le 10 février 1884 à Lavernos-la-Casse, en Haute-Garonne. Il est le stratège de l'équipe de la Vierge Rouge de 1912. Adjudant au 255e régiment d'infanterie durant la Première Guerre mondiale, il est tué le 6 septembre 1914 lors de la bataille de la Marne. La Grande Guerre perturbe fortement tous les sports français par de longues mobilisations des joueurs et des dirigeants. Le stade toulousain vit périr néanmoins 79 de ses membres. Une stèle d'ailleurs est érigée auprès de l'Héraclès de Bourdelle et dédiée à l'initiative du docteur Voivenel aux sportifs morts pour la patrie. Inaugurée le 19 avril 1925 en marge du boulevard Lascrosse, le monument rassemble annuellement tous les 11 novembre édiles et dirigeants du rugby toulousain et régional. On citera deux autres joueurs de cette équipe toulousaine de 1912. Pierre Jauregui, né le 28 mai 1891 à Ostabat. Son frère cadet, Adolphe Jauregui, est également joueur international de rugby à 15. Il compte également quatre sélections à l'équipe de France obtenues en 1913 dans le cadre du tournoi des Cinq Nations qui voit la France finir dernière. En avril 1917, il participe aux côtés du Dakois Maurice Boyau et de Jules Forgue à un match face à une sélection néo-zélandaise militaire qui se conclut par une victoire des All Blacks sur le score de 40-0. En dehors du rugby, il était vétérinaire. Pierre Jauregui décède d'une piqûre anatomique le 26 juillet 1931 à l'hôpital militaire d'Oran, en Algérie française, et il est enterré à Arancou, dans les Basses-Pyrénées, le 1er août 1931. Pierre Mounic, le capitaine, lui, est né le 9 février 1887 à Lussaint-Sauveur, dans les Hautes-Pyrénées. Il est le capitaine de l'équipe de la Vierge Rouge, alors qu'il finit ses études de médecine. Il honore sa première cape internationale en équipe de France le 2 janvier 1911 contre l'Écosse à Colombes. Il fait donc partie des premiers vainqueurs d'une nation britannique, l'Écosse, lors du second tournoi des Cinq Nations disputé par les Français en 1911. Il participe au test match contre l'Afrique du Sud lors de sa tournée en Europe, les Français étant battus 35-5. Il arrête sa carrière de joueur en 1926 à la suite d'une bagarre lors d'un match de championnat. Médecin de profession, il quitte Toulouse pour le village d'Arreau, où il meurt le 7 avril 1964 dans un accident, écrasé par son tracteur.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.